Bonjour et bienvenue sur Regard Bahaï sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Fouad Saberan ainsi que son épouse Leïla Saberan. Alors à vous deux, le bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, l'actualité brûlante nous oblige à orienter notre entretien sur le sort des 7 administrateurs de la communauté Bahaï en Iran, emprisonnés depuis le mois de mars pour la secrétaire de cette administration et depuis le mois de mai pour les 6 autres, pour qui l'on vient d'apprendre l'imminence de leur procès avec mise en accusation d'appartenance à l'organisation illégale Bahaï, d'espionnage pour Israël, de blasphème et de propagande contre la République islamique. Alors d'abord, j'aimerais, si vous me le permettez, demander et de profiter de l'occasion qui nous est offerte de dialoguer avec monsieur et madame Saberan. J'aimerais vous poser d'abord une question peut-être qui peut paraître anodine et un peu trop simple, mais tout de même, on sait que ces personnes sont arrêtées à cause de leur foi, sont en fait emprisonnées à cause de leur foi. J'aimerais savoir si vous pouviez nous donner une vision d'ensemble de cette religion, en quelques mots peut-être, nous expliquer ce qu'est la religion Bahaï. Alors peut-être madame Leïla Saberan.
Je dirais que la religion Bahaï, on pourrait la définir comme, avec l'article « la religion », c'est la religion. C'est-à-dire que les Bahaïs pensent qu'il n'y a pas plusieurs religions, mais qu'il n'y a qu'une religion qui est renouvelée d'âge en âge. Donc, c'est l'époque qui demande une religion dont le principe principal est l'unité du genre humain, étant donné qu'on est arrivé
une certaine maturité, peut-être.
Oui, enfin, le monde est un. On n'est plus avec des distances et avec un éparpillement où on est dans une cellule.
D'accord.
Donc, le monde étant un seul pays,
oui.
On peut imaginer que le slogan « unité » pourrait être la caractéristique de cette religion. Mais elle est liée complètement à toutes les autres religions qui ont en elles-mêmes une prophétie d'attente de l'événement ou l'avènement de cette religion. Donc, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les zoroastriens, etc., il y a une filiation.
D'accord. Et ensuite, il y a des préceptes. Comment ça se traduit
Mais les préceptes sont quelque chose, encore une fois, comme pour l'unité, en accord avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désaccord entre la science et la religion. Il y a un principe d'éducation universelle, d'égalité des droits de l'homme et de la femme, etc. C'est-à-dire que ce sont des principes qui répondent aux besoins de ce monde.
Tout à fait.
Et avec, en y ajoutant bien sûr des principes éternels d'amour du genre humain, de toutes les qualités spirituelles que toutes les religions ont en elles-mêmes.
D'accord.
Et le reste correspond à une actualité, disons. C'est-à-dire que faire dans un monde uni, quels sont, au niveau économique, quelles sont les solutions économiques, quelles sont les solutions d'éducation, etc. Donc, un potentiel dans les principes mêmes pour que l'humanité progresse.
D'accord.
Avec la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre un monde laïque et un monde religieux, etc. Tout est intégré.
D'accord. Mais en fait, aujourd'hui, c'est quoi qu'être bahaï, concrètement?
Je dirais servir. Je pourrais définir sur servir le genre humain. Donc là où on est, et comme on peut, enfin pas comme on peut, avec une organisation précise.
Justement, vous pouvez nous en parler de cette organisation, peut-être?
Un des points, c'est la consultation.
D'accord.
C'est-à-dire que lorsqu'on décide quelque chose, on le décide collégialement.
Mm-hmm.
Un autre des points, c'est que faisons-nous pour les enfants, Un autre point pourrait être quelle est la part de la vie spirituelle de chacun et des temps spirituels. La prière est bien sûr quelque chose de, d'interne, d'individuel.
D'accord.
Mais on peut partager la prière. Il y a
d'accord,
des temps
mais vous n'avez pas des rites.
Justement, une des particularités de la religion bahaï, c'est qu'on serait arrivé à une certaine maturité qui fait qu'on n'a pas besoin de clergé. Et
comment vous faites pour fonctionner justement alors ? Vous référez au texte ?
Oui, la première chose c'est de se référer aux textes déjà écrits et qui sont des références.
Est-ce qu'on peut citer les fondateurs de cette foi ?
Alors les textes sont très très nombreux et on peut dire que les textes principaux sont les textes de Baha'u'llah.
Oui. Qui était lui-même
Qui est la révélation de Dieu pour aujourd'hui.
Oui.
Et Baha'u'llah est un précurseur, le Bab. Et
donc, en fait, le Bab qui était un commerçant, si j'ai bien compris, qui a annoncé la venue.
Qui a comme un Saint Jean-Baptiste, on pourrait
c'est ça,
dire.
Hein. Voilà.
Quand est-ce qu'elle est apparue, cette religion?
Au siècle dernier. Donc, le Bab a... On situe la révélation du Bab, elle a commencé à Shiraz en 1844. Et la révélation de Baha'u'llah à Bagdad en 1863. C'est-à-dire, je dis les moments de la déclaration elle-même. Mais on peut dire qu'en 1953, le Baha'u'llah était déjà en possession de la déclaration entre lui et Dieu, le message que Dieu lui avait confié.
D'accord.
Voilà, ça, ce sont les deux grandes manifestations qui ouvrent cette ère.
Ouais, très bien. Et
ensuite, on a d'autres textes de référence, comme vous me disiez quels étaient les textes. Donc, il y a les textes du fils Abdul-Bahra et les textes du gardien qui s'appelle Shori Effendi et de la même lignée.
Voilà, c'est ça, d'accord.
Et après, à partir de la mort de Shori Effendi...
Qui était lui-même... petit-fils
de Abdul-Bahra.
Hein, c'est ça, d'accord. Voilà.
Donc de la même lignée.
D'accord. Et donc à sa mort.
À sa mort, il est mort en 57. A été préparé la possibilité de l'organe qui nous gère, qui est une référence, c'est la Maison universelle de justice. Et la première Maison universelle de justice a démarré en 1963. Et on peut dire que Shori Effendi a tout fait.
Très particulier à lui, mais qui est hors du commun. Ça, il a un style très personnel, très très personnel, et que ceux qui connaissent les deux langues parfaitement trouvent extraordinaire, tandis que d'autres disent, monsieur, on n'y comprend rien. Ça me fait penser à Lacan en France. Lacan, les gens disent qu'ils n'y comprennent rien, mais ceux qui connaissent Lacan, ils disent que c'est extraordinaire, merveilleux, qu'il a un style fantastique.
Donc pour vous, c'est quand même on va dire, un messager d'importance. Enfin,
Cet homme, c'est un... à la fois un messager et un révolutionnaire social. C'est-à-dire que les lettres d'inscription en chiffres de vivant en arabe.
D'accord.
Mais vous trouvez parfois au cou de nos amis juifs un pendentif qui est aussi le vivant.
D'accord.
Donc là, il y a quelque chose dans les traditions mystiques qui doivent se rapprocher. Le babisme et le bahaïsme sortent du ventre de l'islam, comme le christianisme est sorti du ventre du judaïsme, ce qui fait que dans les écrits bahaïs, les références à l'islam sont très importantes, mais les références à l'évangile à l'Ancien Testament ne sont pas moindres, et aux écrits zoroastriens. Ce qui fait que pour les gens qui ne connaissent pas le bahaïsme de près, on parle de syncrétisme. ce que les Bahaïs n'aiment pas du tout, parce qu'ils disent que c'est pas un syncrétisme, que le... mais pourquoi pas, d'une certaine façon, quand ceux qui disent que le Bahaï c'est un syncrétisme, c'est plutôt un compliment, c'est-à-dire c'est une idéologie, une religion qui cherche à mettre la paix et à réconcilier la religion. C'est ce que Leïla vient de dire en disant c'est la religion, puisque la religion d'après le Bahaïsme se renouvelle d'âge en âge, mais c'est la même, et qu'elle a le même.
Et donc c'est la religion sans renier les autres, hein, d'accord.
Absolument, hein, sans renier les autres.
Sans comme forme de...
Ce que, alors, pourquoi est-ce qu'il y a de la persécution? C'est parce que le Bab d'abord et Baha'u'llah ensuite ont dit le temps prophétique de l'islam est révolu.
Oui.
Et que ce qui n'est pas révolu du tout, c'est le mysticisme de l'islam. Mm-hmm. C'est tout ce que l'islam dit dans la relation de l'homme à Dieu, dans la relation de l'homme à l'éternité, à la transcendance. Mm-hmm. Mais les lois qui régissent la société, la vie des croyants, bah, ça doit être changé parce que le temps passe.
D'accord.
Et c'est totalement insupportable pour le clergé chiite et assez insupportable pour le clergé sunnite, puisque à partir du Caire, le fameux Al-Azhar, qui est une sorte de Vatican, pas exactement, mais ça ressemble à un Vatican du sunnisme, ne rate pas une occasion de tirer à boulet rouge sur les Bahaïs et inciter le gouvernement égyptien à restreindre la liberté des Bahaïs, la vie des Bahaïs, puisque les Bahaïs ont du mal à avoir des papiers d'identité, les Bahaïs ont du mal.
Et depuis le début, depuis le commencement.
Depuis le commencement, puisque les premiers Bahaïs sont arrivés en Égypte, je pense, autour de 1870-75, et puis la persécution doit avoir commencé 4-5 ans après, avec des déportations, des maltraitances, des emprisonnements, des Bahaïs iraniens, mais aussi des Bahaïs venus d'Égyptiens eux-mêmes, et les Bahaïs venus du Moyen-Orient. À l'époque, on ne parlait pas de Jordaniens, de Syriens, etc., puisque c'était l'Empire ottoman.
Mm-hmm.
Et donc, disons, des Bahaïs arabes et des Bahaïs persans étaient déportés. On raconte des faits historiques, donc des chroniqueurs qu'on avait attaché les pauvres gens sous le ventre des chameaux avec les bras attachés avec des cordes. Et donc, ils circulaient la tête entre les cuisses, les pattes antérieures du chameau, enfin, des choses abominables comme ça.
Et dès le début, cependant, est-ce qu'il y a eu un engouement à l'échelle de la planète, malgré tout?
Alors, l'engouement, c'est que les Bahaïs, le Bab avait dit à ses premiers disciples, allez-vous répandre.
D'accord.
C'est un peu comme le Christ qui avait dit à ses...
Il a la même démarche que tous les prophètes, finalement.
Il a la même démarche que tous les prophètes.
Dénoncer le fonctionnement de la société séculière tout en reprenant les principes...
Absolument. Aucun Bahaï ne vous contredira là-dessus. Mm-hmm. On peut dire qu'il a parlé comme le Christ, il a parlé comme Moïse qui s'est attaqué à l'empire pharaonique, comme Mohammed qui s'est attaqué, non pas à un empire parce qu'il n'y avait pas grand-chose, mais au moins à ceux qui tenaient la Mecque. Et donc, j'étais en train de vous parler des persécutions. C'est que ce qui est insupportable, c'est donc le fait de dire qu'il y a une religion après l'islam, comme si, par exemple, dans un milliard d'années, il était possible d'encore appliquer quand nous serons complètement changés, puisqu'il y a un milliard d'années, nous n'étions pas, nous autres humains, comme nous sommes aujourd'hui, et qu'on est probable qu'on va évoluer. On ne sait pas comment, évidemment. Donc, dans un milliard d'années, on ne pourra pas appliquer les mêmes lois coraniques d'il y a 14-15 siècles. Dans les écrits Bahaï, il est dit qu'il y aura régulièrement des messagers de Dieu qui vont venir apporter la bonne nouvelle et apporter des principes d'éducation nouvelles et des lois nouvelles sur le plan religieux à l'humanité.
D'accord.
Alors, il y a autre chose qui est insupportable pour le clergé chiite, c'est, d'abord, j'ai dit tout à l'heure, tout ce que le Bab et Baha'u'llah, chacun à sa façon, dans son langage et lui... Et dans leur écrit, ont dénoncé sur le plan matériel, sur le plan spirituel, en disant que vous n'êtes vraiment pas des croyants. Bah, la façon dont vous comportez, vous parlez de Dieu, mais ce n'est pas un Dieu que vous adorez. Vous êtes des païens, adorez des idoles, puisque vous adorez beaucoup l'argent, entre autres. Mais il y a un phénomène aussi qui est au niveau de l'éducation, comme a dit Leïla, et la place de la femme.
Bien sûr.
Alors c'est là où on arrive à ce qu'a fait le Bab. Le Bab avait une disciple femme, une apôtre plutôt je devrais dire, qui était Tahereh. Alors on l'appelle Tahereh parce que c'est le titre que le Bab lui a donné avant quelqu'un d'autre lui avait donné Qurratolain, qui veut dire prunelle des yeux, et puis en réalité elle s'appelle Zarintaj, qui est l'équivalent d'Aurélie en français. D'accord. Puisqu'il s'agit de, d'une couronne d'or, Zarintaj. Donc Zarintaj est la fille d'un théologien, ouais, la nièce de théologien, et c'est une fille surdouée qui apprend tout ce qu'elle apprend, c'est en se mettant derrière le rideau pour écouter l'enseignement de son père et de ses oncles.
D'accord.
Et très tôt, elle devient extrêmement savante, tellement savante qu'elle ne supporte pas son cousin qui est théologien aussi, et elle le quitte pour aller en Irak, à Karbala. Vous avez entendu dire, il y a ces jours-ci, il y avait un pèlerinage chiite important de plusieurs millions de personnes. Donc elle va là parce qu'il y avait des écoles théologiques très importantes. Elle va voir un homme qui était un réformateur de l'islam, qui était Sheikhi. On ne va pas entrer dans les détails. Et ce grand maître Sheikhi l'appelle Qurratulayn et lui donne...
Donc quelque chose d'extraordinaire, puisque en fait dans aucune religion femme n'avait eu cette place.
Non, mais on n'est pas encore chez le Bab, hein, on n'est pas encore Babi. Mais ce théologien lui donne rang de théologien, puisqu'il faut pour être théologien que quelqu'un qui est reconnu comme étant un maître vous nomme théologien. Alors cette femme devient théologienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le voile. D'abord elle enseigne derrière un rideau, mais on l'entend. Normalement à l'époque aucun homme qui ne soit pas de la famille ne devait entendre la voix d'une femme. Normalement, puisqu'il y avait même des femmes qui se promenaient avec des cailloux dans la bouche pour quand elles parlaient, on n'entende pas leur vraie voix. Mm-hmm. Donc, ensuite, elle jette le rideau et ses disciples la voient dévoilée, donc voient son visage. Mm-hmm. Ce qui est totalement insupportable autour de 1800. Nous sommes en 1840 par là.
D'accord.
Et quand elle apprend le message du Bab, même avant, elle dit à un de ses amis intimes, quand tu le rencontreras, tu lui donneras cette lettre d'allégeance. Mmh. Et en réponse à la lettre d'allégeance, le Bab lui écrit.
D'accord.
Et il s'établit entre cet homme déporté, donc que plus personne ne voit, qu'il y en a un secrétaire qui lui sert de lien avec l'extérieur, et cette femme, une correspondance, parce que non seulement les musulmans ne supportaient pas la liberté de parole de cette femme exceptionnelle, mais les babis non plus.
Ah d'accord.
Certains babis non plus.
Ouais.
Et ces babis se plaignaient d'elle au grand maître, le Bab, en disant vraiment, elle est catastrophe, elle fait ci, elle fait ça, elle se dévoile, elle se promène à cheval, elle harangue les foules, elle passe devant les hommes, etc. Et à chaque fois, on a une lettre du Bab qui dit, mais c'est elle qui a raison. C'est comme elle que vous devriez faire. Et de comme vous devriez faire comme elle, comme elle, comme elle, il se fait un écrémage. C'est-à-dire un certain nombre de babis quittent la communauté babi rien qu'à cause d'elle.
Très bien.
Mais d'autres intègrent.
Bien sûr.
Ce qui fait que lors de son passage de... Alors, elle est expulsée de Bagdad.
Oui.
Parce qu'elle est trop... De Karbala et de Bagdad par l'Empire ottoman. Donc
elle se retrouve.
Elle se retrouve en Iran. Et sur son chemin... que je connais bien, puisque moi j'ai vécu en Irak. Et donc j'ai fait plusieurs fois le chemin avec ma famille pour aller de l'Irak en Iran, à Téhéran. Donc je fais le même chemin qu'elle. Et en chemin, elle passe par des villes où elle proclame la foi du Bab. Et dans ces villes-là, des non-musulmans deviennent Bahaï.
D'accord.
C'est-à-dire, il y a des chrétiens, des zoroastriens, et beaucoup de juifs deviennent Bahaï, sur son chemin. Qui sont martyrisés.
D'accord.
Il y a plusieurs parmi les Bahaïs d'origine.
Donc elle est à l'origine aussi donc, de cette foi, de l'engouement de cette foi. Enfin,
elle est associée.
Alors elle est sans aucune prétention vis-à-vis du maître.
Avec son autorisation, comment ça s'est passé? Elle l'a fait elle-même parce qu'elle avait la foi, elle le sentait. Le Bab.
Le Bab, de toute façon, dit qu'elle est pure et tout ce qu'elle fait est bien.
Donc en fait, ça va aider plus tard à comprendre cette. Voilà. Et puis aussi cette ouverture d'esprit.
Ça ne s'est pas arrêté.
Voilà,
cette femme est symbolique. Juste, je vous parle d'elle, on pourrait parler des hommes aussi.
Oui, bien sûr. Mais
quand on parle de cette femme, tout d'un coup, les choses deviennent claires. Et cette femme a eu toutes les injures qu'on puisse dire dans le vocabulaire des gens d'en face, tout ce que vous voulez a été dit sur son compte. Et cette femme, par exemple, oublions le par exemple. Elle est donc finalement, à un moment donné, elle est arrêtée. Elle est déportée à Téhéran. Elle est emprisonnée dans une chambre où on peut monter avec une échelle pour que personne ne puisse accéder à elle. Mais dans cette chambre encore, parce qu'elle, alors elle était poétesse. Aujourd'hui, vous avez ses poèmes. Mmh. Et quand vous parlez avec un Iranien qui s'y connaît en poésie, vraiment, moi, j'y connais pas grand-chose. Je sais un peu lire. Mais
c'est
vraiment.
C'est la quintessence de la poésie.
C'est moderne. C'est moderne, c'est magnifique, c'est splendide, etc. C'est en général des poèmes mystiques, mais pas toujours, mais c'est souvent des poèmes mystiques. Et donc, cette femme, elle arrive à Téhéran, et finalement, elle est condamnée à mort par des fatwas, de théologiens de la cour qu'ils n'ont jamais rencontrés, mais le fait même de savoir que ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit, on montrait ce qu'elle avait écrit, c'était suffisant. Le chat, qui était alors pas très vieux, le chat de l'époque, Nasreddin Shah, d'autant que sa mère, Nasreddin Shah, détestait cette femme, avant de savoir pourquoi. Alors la légende dit, mais moi je n'ai aucune preuve historique, mais c'est une légende qui est vraiment dite partout, que le chat a demandé sa main et lui a dit « Non, tu gardes ton trône et moi, là où je suis, c'est beaucoup mieux pour moi, on ne va pas se fréquenter. » Et donc on dit, donc le chat la condamne à mort. Mmh. Elle est exécutée. C'est un fait rare qu'une femme soit exécutée dans l'islam pour hérésie. Eh ben non, c'est parce qu'elle était théologienne, donc elle avait rang d'homme.
D'accord.
Si elle n'avait pas été théologienne, on l'aurait simplement rendue à son papa ou à son mari ou à son cousin ou je sais pas, peut-être même à son fils en disant une femme est mineure, donc tu t'en occupes et tu te la fais taire. Non, elle était théologienne, donc elle avait rang d'homme, donc on l'étrangle.
D'accord. Oui, donc ce qui est quand même.
Alors nous sommes et cette histoire d'étrangler cette femme, d'assassiner cette femme, nous n'en sommes pas sortis.
D'accord.
Parce que les ayatollahs iraniens actuellement font la même chose avec toute femme, quelle que soit la manifestation de la liberté de ces femmes, elles sont maltraitées. Vous voyez des tas de photos, des tas de films qui viennent des grandes villes d'Iran, pas des campagnes, où les femmes flics, parce que ce n'est pas des policières à mon sens, c'est des flics, tapent sur ces jeunes femmes parce qu'il y a un bout de cheveux qui
les embarquent.
Un bout de cheveux qui dépasse, ou parce qu'à l'université, elles ont dit quelques paroles des libertés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du régime, ce ne sont pas des femmes bahaïs, ce ne sont pas des femmes babis qu'on maltraite. Ce sont des femmes simplement qui ont un peu de liberté dans leur pensée, ou beaucoup de liberté, parce qu'il faut quand même dire que l'avenir de l'Iran...
C'est la femme.
C'est probablement la femme et la liberté de la femme. Toutes les femmes iraniennes ne sont pas du côté de la liberté, puisqu'il y a un grand nombre de femmes flics qui maltraitent la population. C'est le pays, à mon avis, qui a le pourcentage le plus important de femmes flics.
D'accord, ce qui n'est pas rassurant.
Qui est dans la répression. Qui sont
est-ce
en
que
dans
c'est
la répression.
Lié aussi du fait de ce peuple qui est... En fait, il y a 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
Alors, ils vivent... Attendez, l'Iran est un pays extrêmement compliqué. C'est un vrai empire au sens où c'est un conglomérat de peuples qui cohabitent ensemble depuis 25 siècles.
D'accord.
L'empire s'est étendu, il s'est rétréci, mais ce conglomérat est resté. L'Iran est un pays où on parle au moins 50 langues, par plus de 100 000 habitants.
D'accord.
Il ne faut pas parler de dialecte.
C'est
ces gens qui ont leur poésie, qui ont leur littérature, etc.
Leur culture.
Malheureusement, ça se perd, puisque la langue nationale qui est le persan est en train de tout faire. Mais vous avez 20 millions de turcophones en Iran.
Bien
on
ne
peut pas les faire taire. Vous avez 3 millions d'arabophones,
oui, d'accord,
etc.
Oui, d'accord.
Non, cette diversité-là, le clergé actuel iranien ne le supporte pas puisqu'il maltraite les minorités ethniques, maltraite les sunnis qui ne sont pas des chiites, les musulmans sunnis les maltraitent, les musulmans soufis les sont maltraités. Et moi j'aimerais bien savoir pourquoi ils maltraitent les soufis, parce que les soufis sont des gens retirés du monde en quelque sorte, enfin ils ne se mêlent pas, ils ne se mêlent de rien.
D'accord.
Ils sont soufis dans leur tête, ils pratiquent leurs prières dans leur tête. Les bahaïs ont un projet social.
Alors là, du coup,
qui est totalement insupportable par le régime actuel. Mon épouse vous a parlé de ce que les bahaïs appellent la consultation. En bon français, on dirait la concertation.
Oui,
cette démocratie interne de la communauté bahaïe...
Participative.
Elle est participative, puisque dans les écrits bahaïs, non seulement c'est participatif dans la démocratie interne pour prendre des décisions, mais c'est aussi participatif sur le plan économique.
Voilà.
Bon. Eh ben, c'est insupportable.
D'accord.
C'est insupportable.
Alors, bon, justement, aujourd'hui encore, l'Iran est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ce genre d'exactions sont encore possibles ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ?
Eh bien, quand les politiciens trahissent leur signature, ça devient un bout de papier. Il y a des grands dictateurs qui ont dit ça au XXe siècle. Oui. Ils ont dit, oh, un tel pacte, mais c'est un bout de papier. Eh bien, c'est un bout de papier. C'est-à-dire que, de toutes les façons, comme les Bahaïs, comment dirais-je, on ne peut pas lutter contre eux sur le plan simplement religieux, ben on les accuse d'espionnage et de machin comme ça. C'est un peu ridicule d'avoir traité nos administrateurs d'espions, parce que c'était parmi les hommes et les femmes les plus surveillés d'Iran. Leur lettre était surveillée, leur téléphone était surveillé, ils étaient suivis dans la rue.
Ils s'étaient eux-mêmes...
Et ils se présentaient eux-mêmes aux autorités. Mais c'était leur boulot d'aller aux autorités.
Voilà,
leur
pour
boulot,
dire les amis, nous sommes la communauté des amis, etc. Voilà, nous existons et on n'a rien à cacher.
C'est-à-dire, leur boulot, c'était d'aller voir les autorités pour essayer de résoudre les problèmes qui se posaient aux familles Bahaï.
D'accord.
Puisqu'il y a toujours même pour les naissances, il y a un problème. Pour les morts, il y a un problème. Pour les mariages, il y a un problème.
Donc les 7 administrateurs qui sont aujourd'hui en prison, eux, œuvraient pour le bien-être de la communauté Bahaï, mais j'imagine aussi pour les autres, finalement.
Alors, il y a autre chose qui est gênant chez les Bahaï, c'est leur militantisme. C'est-à-dire que nous sommes, depuis l'enfance, élevés dans le service. On vous a dit tout à l'heure, moi j'ai dit militantisme pour que l'auditeur français puisse mieux comprendre. Le service, ça consiste que l'enfant est élevé là-dedans, garçon et fille. D'accord. Et ce service n'est pas à l'intérieur de la communauté. On apprend... Bon, je donne un exemple qui me concerne très précisément. Oui. Mes parents se sont mariés en 40, je pense. Fin 39, depuis 40. Et ces deux jeunes gens se sont mariés en se faisant le pacte, les deux fiancés, qu'après leur mariage, ils iraient accomplir quelque chose que demandaient les dirigeants de la communauté Bahaï de l'époque. C'est-à-dire les dirigeants élus de la communauté Bahaï. Il n'y a pas de dirigeants chez les Bahaï. Les gens sont 9 personnes élues dans chaque pays et chaque année, ça, parfois, les 9 changent du jour au lendemain.
Qu'est-ce qu'ils demandaient alors ? Qu'est-ce que vous voulez
dire ? Alors attendez, c'était le plan d'alphabétisation. Il fallait alphabétiser tous les Bahaï en âge d'être alphabétisés dans tout l'Iran. D'accord. Ils ont fait partie de ces centaines et de milliers de couples intellectuels qui sont partis dans le désert, qui sont partis dans les petits villages où il n'y avait ni eau courante, ni évidemment électricité, ni chemin, ni rien. Ils ne sont pas les seuls, ils étaient, je vous dis, plusieurs milliers de couples. Et donc, ils sont allés dans un village et leur boulot a consisté à ma mère s'occuper des filles, mon père s'occuper des garçons, parce que c'était plus simple, parce que dans les villages, c'était pas... Et alors, c'était pas simple parce qu'il y avait les mollahs du coin qui étaient mettre toujours une épine dans leur pied. Et mes parents ont demandé aux gens d'amener leurs enfants et ils sont allés chercher et tous les deux racontent, mon père est encore vivant, presque centenaire, et raconte avec plaisir et délice avoir été dans les champs, avoir été chez les parents, prendre les enfants qu'ils trouvaient d'une intelligence supérieure à la moyenne. Ma mère a fait la même avec les filles. Ils les ont amenées en classe. Mais ces classes-là n'étaient pas fermées à qui que ce soit. Bien les sûr, musulmans bien. Pouvaient venir. Bien ce qui fait qu'ils ont, je ne sais plus, je crois, 30, 50 garçons et filles entre 10 et 20 ans, puisqu'ils avaient des élèves assez âgés, ont pu avoir le certificat d'études à leur départ. Mais pourquoi ils sont partis ? Ils ne sont pas partis du tout de leur...
Plein gré,
pas du tout. C'est parce que les Alliés ayant déposé le chat de l'époque, qui s'appelait Reza Shah, ils l'ont déporté à Johannesburg ou à l'île Maurice. Et ça a été l'anarchie en Iran. Le seul pouvoir qui pouvait rester, c'était le pouvoir des mollahs. Ils avaient tout d'un coup le champ libre devant eux. Ça a duré longtemps. Le mollah du coin, il s'est arrangé. Dieu merci, il n'a pas versé de sang. Celui-là, d'autres ont versé le sang des Bahaïs, de ses enseignants, de ses profs. Et donc, mes parents, un matin, on a mis toutes leurs affaires
Et on les a renvoyés.
Dans une voiture. Et puis, avec le bébé que j'étais, on les a renvoyés à Téhéran.
Donc en fait, cet administrateur, parce qu'on va bientôt toucher à la fin de l'émission, qui sont actuellement qui sont emprisonnés et qui vont être jugés donc sous les prétextes que j'ai rappelés tout à l'heure et qui sont, on est tous d'accord pour le dire, qui sont des prétextes fallacieux, n'ayant pas peur des mots, se retrouvent eux avec en fait une position inconfortable dans le sens où j'ai l'impression, mais ça c'est mon point de vue d'Européen, que peu de monde en parle. que peu de monde s'insurge et que j'ai malheureusement la crainte, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir, c'est qu'on n'en parle pas du tout et qu'on a l'impression que ça va les... On les laisse un peu à leurs conditions, de par leur façon d'être bahaïs, j'ai l'impression.
Alors, on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas beaucoup. Les grands journaux français en ont parlé. Vous avez un article dans le Figaro, dans le Monde, plusieurs dans Libération.
Mais concernant le procès qui s'annonce cette semaine,
ça, je n'ai pas vu encore.
Voilà.
Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'en France, tout ce qui tient à la religion, c'est un peu bizarroïde pour tout le monde. Tandis que vous avez les grands journaux anglo-saxons, allemands, sud-américains.
Enfin, on a parlé de la Chine avec les moines bouddhistes. Enfin,
oui.
Bon, mais il y avait les JO, vous me direz, mais bon, ils ont profité de ça, mais...
Plus politique, peut-être.
On est quand même le pays des droits de l'homme. Alors aussi, c'est pas que religieux, c'est les droits de l'homme. Je trouve que si on touche à cette liberté bahaï, moi, pour moi, c'est une liberté parmi tant d'autres.
Alors, il faut quand même rendre hommage au gouvernement français, sous la présidence européenne de la France. Oui. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a fait en sorte que les 27 Européens votent en faveur des bahaïs contre le régime iranien à la Commission des droits de l'homme. Je veux dire, on ne peut pas dire que la France... D'accord. On peut dire que ce n'est pas assez,
voilà,
ou on peut s'attendre à plus, oui. Mais je me dis aussi qu'en coulisses, les gouvernements français ne doivent agir ne serait-ce qu'à cause de la haine que leur voue la frange la plus conservatrice du clergé iranien. La France est un pays honni pour l'extrême droite iranienne, pour l'extrême droite religieuse iranienne. Il faut
même petit truc que les Anglais.
Non. La France a une place très particulière parce que les autres, c'est politique. La France, c'est les mœurs de la France.
D'accord, oui.
La liberté des femmes françaises n'est absolument pas supportée, ou des jeunes gens français en tout cas. Et puis ce qui arrive en premier, c'est la sexualité, comme si ça résumait une nation entière.
Et les mentalités évoluent aussi au sein de l'Iran, au même titre que nous. Est-ce que ça évolue? Comment ça se passe en Iran? Alors, pour les bahaïs, les mentalités, c'est...
Le sort des bahaïs est un sort très étrange. Pendant un siècle et demi, ils sont servis de monnaie d'échange entre le pouvoir impérial et le clergé. Quand le clergé et le pouvoir impérial, le sabre et le goupillon, étaient ensemble, le sort des bahaïs était catastrophique, à chaque fois, chez les Qadjars et chez les Pahlavis. Quand le roi, enfin l'autorité civile, décidait de rétablir un peu de son pouvoir, restreignait le pouvoir du clergé, et les bahaïs avaient la paix. Il y a eu des moments où les bahaïs ont eu la paix. Et, par exemple, dans les années 20, entre 25 et 35, en gros, les bahaïs ont eu la paix en Iran.
Au même titre que les autres communautés.
En gros, alors non, la répression était dirigée contre les dissidents politiques en Iran. Il y a une répression féroce sous les achats contre tout ce qui n'obéissait pas à sa loi.
D'accord.
Les bahaïs ne faisaient pas de politique. Il y avait énormément d'intellectuels parmi eux, ce que le régime actuel nous refuse, puisque ça fait 30 ans qu'aucun bahaï n'a pu faire de l'université.
Ouais.
Pendant même deux décennies, les jeunes gens bahaïs n'avaient même pas le droit d'avoir le bac. Ils étaient interdits de baccalauréat. Donc, cette persécution, comment dirais-je, maintenant, ils ont le champ libre. Le mot-là, le champ libre. Il n'y a pas d'autorité civile face à... J'ai oublié d'où on était parti.
Non, c'est simplement pour savoir en Iran ce qui se passait aussi.
Alors, il y a une révolution en Iran.
Voilà.
Il y a quelque chose de nouveau qui est extraordinaire.
D'accord.
C'est le fait que les intellectuels, près de 300 intellectuels iraniens, plus de 250, parce que ça augmente d'heure en heure les chiffres, vivant à l'étranger et même en Iran, ont écrit une lettre ouverte pour dire « Nous avons honte de ce qu'on vous a fait subir ». C'est une lettre émouvante.
Oui.
Et alors, il y a des bahaïs aux États-Unis qui ont commencé à leur répondre en leur répondant « Nous sommes fiers de vous ». Alors, à chaque... C'est aussi un manifeste. « Nous sommes fiers de vous parce que vous avez fait ça, vous avez fait ça. » Mais c'est une nouveauté.
D'accord.
Ça fait 2-3 ans que les intellectuels iraniens à l'étranger se sont mis à dire « Les bahaïs, c'est des citoyens comme les autres. » Pendant longtemps, nous étions les espions, tantôt de la Russie, tantôt de l'Angleterre, tantôt... Attendez, de l'Union soviétique...
Ouais.
Maintenant, c'est Israël, États-Unis, etc. Mais l'imagination des persécuteurs est tout à fait fertile.
Donc les mentalités sont en train de changer. Alors, au sein même de l'Iran.
Mais les mentalités ont changé. Les Bahaïs ont été aussi protégés par leurs familles et leurs amis en Iran.
Dans quel sens?
On les cachait ou non?
Ben
évidemment. Ouais.
Mais il y a toujours eu des profanations de cimetières.
Ça, c'est l'État. D'accord. C'est pas forcément. L'État est une petite frange de la population. D'accord. Ceux qui vont actuellement lancer des cocktails Molotov dans des maisons.
Des slogans haineux.
Ou par exemple, ceux qui ont. Il y a un groupe de gens qui ont photocopié, enfin, qui ont fait un livret de 30 pages à Shiraz pour donner le nom de toutes les entreprises tenues par des Bahaïs. Ouais. Allons vérifier. C'est pas sûr que ce soit tous des Bahaïs.
Les heures sombres.
Et la liste de tous les Bahaïs, des familles
avec
des
leurs enfants.
Avec leurs enfants.
300 000 Bahaïs en Iran.
Non, de Shiraz, de la ville de Shiraz, qui est une ville au sud-ouest de l'Iran, pas très loin du golfe Persique. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais c'est pas toute la population. Il faut.
Oui, mais ça fonctionne. Vous comprenez? Vous me dites c'est pas toute la population, mais il n'empêche que malheureusement, ça fonctionne contre les Bahaïs quand même.
Excusez-moi, si les 15% ou 10% de l'extrême droite française prenaient le pouvoir, ça ne serait fait pour vous et pour moi.
Sauf que ça ne s'est pas fait.
Parce que nous sommes dans un pays. Bah oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
Mais il y a aussi une autre chose, c'est que les intellectuels iraniens se sont fait avoir en 79.
Oui.
Ils ont déployé un tapis rouge sous les pieds d'un monsieur d'un autre âge.
Oui. Il avait caché son jeu d'ailleurs au départ. Hein.
Je crois pas. C'est pas vrai.
Bah, c'est ce qu'on raconte.
Ah non, il avait pas caché son jeu. Il avait dès le début, il avait toujours dit le gouvernement islamique de rigueur. Non, il avait pas caché son jeu. Maintenant, est-ce que c'est ça l'islam? En ce qui me concerne, les amis musulmans que j'ai, à la fois iraniens et arabes, puisque j'ai vécu longtemps chez les arabes, c'est pas ça pour moi l'islam. Moi, je connais tout autre visage de l'islam, un tout autre visage. Et quand je vous dis que les Iraniens, dans leur majorité, on n'a pas de statistiques, mais les Bahaïs auraient été anéantis s'ils n'avaient pas été soutenus par leur famille et leurs amis non-Bahaïs.
Tout à fait.
Il faut rendre cet hommage-là au peuple iranien. C'est un peuple, et quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est un peuple de poètes, les Iraniens, même les illettrés. Ma grand-mère, qui était une femme illettrée, la mère de ma mère, était capable de nous parler des heures et des heures en poésie. Elle n'est pas une exception. Et ça, c'est, comme on dit, dans le sang des Iraniens. Ce peuple est un peuple de poètes. Ce peuple a produit, au moins depuis 1000 ans, mais même avant, mais depuis 1000 ans, on le sait bien, parmi les plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité, que ce soit en matière scientifique, philosophique, poétique, et les écrits sont extraordinaires. L'Europe n'y a pas beaucoup accès, mais quand il y a accès, quand vous voyez quelqu'un qui lit du Attar, du Rumi, ou connaît Hafez, ou connaît Omar Khayyam, leurs yeux brillent, parce que c'est du même niveau que Victor Hugo, Descartes, ou du Bellet. Enfin, c'est des grands penseurs.
Léla Sabéran, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je veux dire qu'il y a quand même des bourreaux. Il y a des poètes et il y a des bourreaux. Et que les Bahaïs, ça fait trop longtemps que ça dure, et que vous avez raison de dire que c'est un scandale qu'on reste sous ce silence. Et vous n'êtes pas le seul à dire ça. Dernièrement, Marc Ravetz, chaque fois qu'il prend la parole, il le dit. C'est-à-dire que
France Culture,
pardon, oui. C'est-à-dire que le côté, ça fait trop longtemps que ça dure, et on dirait que cette durée est une fatalité presque. C'est-à-dire quand on pense qu'il y a une génération de sacrifiés, une deuxième génération de sacrifiés,
ça dure depuis tant de siècles.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ces dirigeants, Libération et Figaro, etc., lorsqu'il y a eu des journaux qui se sont battus, il a raison, mais en même temps, ils ont dit la communauté bahaïe est décapitée. Les grands titres étaient ils n'ont plus de dirigeants. Ils n'ont jamais été vraiment dirigeants, puisque dès le départ, les instances étaient interdites et ils s'étaient autodissous eux-mêmes. Donc, c'est grave que les dirigeants aient été emprisonnés. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il arrive? Ça fait qu'ils sont restés en prison sans chef d'inculpation, sans qu'on leur dise pourquoi ils sont emprisonnés pendant 8-9 mois. Et aujourd'hui, on annonce un procès.
Et sans avocat.
Aujourd'hui,
on va rappeler d'ailleurs que l'avocate
Shirin Ebadi, le prix Nobel de la paix.
Donc c'est quand même bon. Heureusement, il y a au moins ça quelque part.
Oui, oui, non,
mais il n'a jamais pu accéder à leur dossier.
C'est ça. C'est-à-dire que le scandale,
ni même les voir,
Le scandale, il est là. C'est-à-dire que notre appel, pourquoi, et grâce à vous, des journalistes comme vous, qu'est-ce qu'on demande? C'est que le procès ne soit pas un procès expéditif. Il est annoncé, c'est bon signe en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on fait un procès et nous espérons que ça ne sera pas un semblant de procès. Et ce que nous demandons, c'est vraiment qu'il soit ouvert, qu'il y ait des observateurs, et qu'il y ait une possibilité de dire ce que sont les Bahaïs. C'est-à-dire que vous, avec votre émission, vous nous demandez à nous, mais dites pourquoi vous provoquez tant de rejets.
Voilà. Alors qu'encore une fois, vous êtes
pacifiste.
Vous prenez des valeurs qui sont humaines, globales.
Donc c'est important d'en parler.
Bien sûr, c'est révoltant, très sincèrement, c'est révoltant de toucher à ça, encore une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, on a dépassé un peu le temps, mais on va terminer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire je prends un exemple. À une époque, il y avait Ingrid Betancourt qui était retenue par les FARC. On a manifesté, nous, en France, on s'est retrouvés, des milliers, à marcher dans la rue. Et j'ai trouvé ça noble, encore une fois, de faire ça pour cette femme. Et que c'était effectivement qui se battait pour des idéaux politiques, là, pour le coup, mais qui, d'une certaine manière, représentait aussi sa part de liberté dans le monde. Et pour moi, la liberté, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, comment peut-on faire pour aider à ce que, d'une part, ce procès soit tenu une façon relativement...
Je n'en crois pas un mot, c'est un procès.
Ben voilà, c'est ça qui
est
inquiétant.
Procès de Moscou, c'est un procès de Prague.
C'est guignol. Mais
symboliquement,
mais avec une vie, vies en jeu. Hein.
Attendez, que ces gens soient libérés, ou qu'ils soient exécutés, ou qu'ils soient emprisonnés, le gouvernement iranien, le gouvernement des Mollahs, a déjà perdu la bataille contre les Bahaïs. Il y a assez de monde Bahaï à l'extérieur. Il y a assez d'intellectuels, de savants, de militants, des gens qui sont brésiliens, argentins, américains, congolais, tahitiens, etc. Je veux dire français ou allemand. Oui, nous venons d'avoir un congrès à Francfort.
L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas. C'est ça.
On ne peut pas accepter ce genre de choses. Mais il faut que le gouvernement iranien sache qu'il a déjà perdu la bataille qu'il mène contre les Bahaïs.
Apparemment, ça ne le dérange pas de continuer.
Si les sept dirigeants sont exécutés, que vont faire les
300 000 dirigeants iraniens? Honte aux dirigeants iraniens s'ils exécutent des innocents qui savent mieux que vous et moi qui sont innocents. Honte à eux. Et d'ailleurs, la honte va leur retomber dessus. De toutes les façons, ils sont discrédités. Ils vont encore plus se discréditer.
Mais il faut empêcher ça.
Quand nous avons un congrès, nous venons d'avoir un congrès à Francfort. Nous étions plus de 4 500. Mais c'était très intéressant de voir qui y avait dans la salle. Il y avait les anciens de la Yougoslavie qui étaient là, qui étaient en paix entre les Croates, les Serbes, les Slovènes, etc., qui étaient dans la salle, assis côte à côte. Il y avait les Allemands, les Français et les Polonais. C'est extraordinaire de trouver dans la même salle. Je veux dire extraordinaire. Pas en Europe, mais symboliquement quand même de voir... Non, on peut aussi trouver des réunions de jeunesse, par exemple catholique ou français. Mais moi, j'ai essayé de réveiller quelques personnes à l'idée que c'était intéressant de trouver qu'on a fait non seulement le politiquement et la paix, mais les Bahaïs aussi sont des artisans de la paix puisqu'ils réunissent dans la même salle des centaines de gens de nations qui étaient en guerre. Le Mollah iranien ont perdu cette bataille. C'est honteux pour eux. C'est quasiment presque honteux pour tout Iranien que ce gouvernement existe, que ce gouvernement commette les actes qu'il commet. Et quand les intellectuels iraniens défendent les Bahaïs, ils défendent leur propre honneur.
Tout à fait.
C'est
l'honneur de l'humanité tout entière.
Et par-delà même, merci, vous avez enlevé le mot. Et par-delà de ça, ils défendent l'honneur de l'humanité entière. Et donc, moi, je leur rends hommage à ces gens-là. Je suis fier d'eux qu'ils aient enfin pris cette position.
Tout à fait.
Vous avez des gens à Paris peut-être qui ne connaissent pas du tout le bahaïsme. Je les connais quelques-uns d'entre eux. Ils connaissent de loin. Mais le fait qu'ils aient signé ça, il faut aussi dire que celui qui a signé ce papier, il ne peut plus jamais rentrer en Iran.
D'accord.
Mais
c'est ça.
C'est du courage.
C'est du courage partout, d'accord.
Mais il faut que d'autres.
Il faut que maintenant on se concentre tous, et je compte sur vous pour nous informer aussi, si dans la mesure de vos moyens, nous informer donc du jour du procès, parce que on le connaît toujours pas. Vous avez vous-même des dates? C'était prévu pour cette semaine. Bon, on est mardi.
Mais la Chambre des représentants aux États-Unis le ministre des Affaires étrangères dans l'Angleterre,
l'Allemagne
ont déjà pris des positions très fortes contre cette affaire. Et,
est-ce que vous comptez vous réunir, les Bahaïs de France, de Paris peut-être, non ? Est-ce que vous avez envie de vous réunir pour... je sais pas, pour faire une marche, quelque chose. Est-ce que c'est dans votre...
C'est pas dans les habitudes, oui. Mais ça pourrait se faire. Il y a quelques années, les Hollandais, ils avaient fait un truc merveilleux.
Oui.
Ils avaient pris des torches, des drapeaux, des choses comme ça, enfin, quelque chose qui fasse... Ils avaient fait une file indienne, parce qu'en disant qu'on ne veut pas déranger la circulation, mais on veut quand même manifester. Donc, ils étaient une file de plusieurs kilomètres, gens qui étaient à la queue leu-leu, et qui ont fait leur manifestation comme ça. Ça me paraît pas une mauvaise idée.
Ça serait bien, d'accord. Ouais, ouais. À réfléchir, et puis on vous tiendra au courant, parce qu'on pourra être un relais pour vous. Mmh. Si quelque chose s'organise, vous pourrez compter sur nous. Bah, écoutez,
merci à vous.
C'est nous qui vous remercions. Voilà, cette émission était faite en collaboration avec Mélanie, donc la chroniqueuse avec qui j'ai l'habitude de travailler. Voilà, donc vous étiez sur IDFM Radio Anguin, en compagnie de Dr Fouad Sabéran et de Madame Leïla Sabéran. Nous vous remercions, puis on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.